C'est vrai que j'ai un cœur pour ceux qui sont en difficulté, mais je suis en difficulté moi-même. Et je pense qu'on est en difficulté face aux personnes qui sont en difficulté. Et ça, c'est une réalité qui nous touche tous dans le monde dans lequel on est. Il y en a plusieurs parmi vous qui étaient déçus la dernière fois que j'ai apporté un message que je suis pas... j'ai pas pris comme thème ce qui avait été annoncé, les questions gris. Alors, je reviens donner la définition du mot gris. C'est un acronyme. C'est la première lettre de 4 mots, c'est-à-dire le genre, les relations, l'identité et la sexualité. Et ce qui me frappe toujours dans l'Église, c'est que ici, à l'intérieur des églises, c'est un des thèmes dont on parle le moins, mais à peine on sort à l'extérieur, c'est un des thèmes dont on parle le plus. Et ça montre qu'on est en difficulté. Voilà. Mais j'ai un cœur par rapport à ça, parce que je me dis, mais Dieu, lui, il n'est pas en difficulté. Il faudrait qu'on connaisse mieux son cœur et par rapport à ces questions. Donc, ce que je vais apporter aujourd'hui, parce que c'est un sujet tellement vaste, c'est une petite sensibilisation sur une des facettes. Et puis, ce ne sera pas un enseignement comme on a l'habitude d'entendre, une étude théologique, mais je vais le donner sous forme de témoignage. Et puis, je vais parler en jeu. Il y a beaucoup de façons de voir les choses, de les comprendre sur ces questions-là. Et pour moi, c'est important de dire, mais c'est personnel, ça jaillit de mon vécu, des personnes proches qui m'ont impacté positivement ou négativement, ça sort de ma personnalité, de mes convictions, de mon dialogue, de mon histoire avec Dieu. Mais aussi ce que je perçois dans la Bible, mais avec ma propre grille de lecture. Et ça, je veux l'assumer devant vous, et ça me donne beaucoup de paix, de joie, de liberté, et un profond sentiment de cohérence de dire, mais ça, c'est moi. Et peut-être que vous, vous voyez les choses totalement différemment. Peut-être que vous avez une autre grille de lecture de la Bible que moi, ou il y a peut-être même des personnes qui ne lisent pas la Bible, ça ne les intéresse pas. Voilà. Je suis juste une témoin d'une femme de mon temps. J'ai passé 60 ans, donc je représente aussi presque 3 générations. Et puis, il m'est donné souvent d'entendre des personnes qui sont centenaires et qui me parlent aussi comment c'était avant et comment elles ont vécu les choses. Alors voilà, ça me demande aussi de l'humilité. Et c'est compliqué de parler de ces sujets-là parce que tant qu'on parle de comportement, ben, il y a des lois, des règles, des commandements, c'est vite fait de les poser. Mais dès qu'on parle du cœur humain, de la sensibilité humaine, du vécu, là, on doit faire attention de ne pas être dans des choses stéréotypées ou qu'on blesse, et on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour nous parler. Aujourd'hui, je vais principalement parler du genre. Et avant de donner la définition, qu'on peut trouver facilement sur Internet ou comme ça, vous dire que moi, je me sens très petite parce que c'est des questions qui me dépassent et puis je suis en chemin. Puis je sais que tout à l'heure, j'ai parlé avec un des théologiens de notre église et tout de suite, ça a apporté des nouveaux éclaircissements et déjà, ça me fait évoluer. Et peut-être qu'à la fin de ce culte, je vais discuter avec des personnes et déjà, j'évoluerai un peu plus. Pour moi, témoigner, c'est juste apporter ma couleur dans un monde chamarré, très coloré. Et je crois que c'est ma façon à moi d'exister. Et ça me fait du bien. Je ne vais pas venir sur des questions morales, c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux. Et je ne veux pas mettre de fardeau sur qui que ce soit. Alors, si quelqu'un entend mon message, c'est mon point de vue. Après, chacun a la responsabilité de trouver son propre chemin. Et moi, je demande l'aide de Dieu pour trouver mon chemin, en fait, dans ces questions-là. Donc, je ne veux mettre la pression sur personne ni avoir la prétention d'avoir raison. Puis j'aimerais dire aussi, avant d'aller plus loin, que plus j'évolue, plus j'ai un profond respect et de l'estime même pour tous ceux qui voient les choses différemment que moi, qui les vivent différemment que moi, chrétiens ou pas. Je me rends compte de la richesse, de la complexité des choses et ça me maintient dans une certaine distance respectueuse et surtout ça m'aide à ne pas juger. De plus en plus, c'est quelque chose que ça me fait du bien. Ça me repose de ne pas avoir ce fardeau de devoir juger les choses. Alors, je vous donne la définition du genre, une des définitions courantes. Le genre, c'est un concept qui désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie, mais de la construction sociale. Il se distingue du concept de type sexuel, sexe, en focalisant sur les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Moi, je vous dis comment je comprends les choses. Ma façon de voir avant, et quand j'étais petite, c'était vraiment comme ça, et quand j'écoute les personnes en EMS, c'est encore plus fortement exprimé. Quand un enfant naissait, qu'on voyait son sexe de naissance, il y a toute une partie de sa vie qui était déjà inscrite. Puisque c'est une fille, par exemple, à la campagne, on savait le rôle social qu'elle allait jouer. Si c'était un garçon, si c'était l'aîné, on savait qu'il serait l'héritier, qu'il reprendrait le métier de son père. En fait, les choses, elles coulaient de source. Après, à cause de beaucoup de souffrances et d'abus, il y a des femmes qui ont commencé à parler de la souffrance des femmes et qui ont remis en question beaucoup de choses. Et on séparait les choses petit à petit, au point que c'est comme s'il n'y avait plus de lien entre les deux. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Où on essaye qu'il y ait le moins de liens possible pour que chacun soit pleinement lui. Et puis, j'essaie de vous raconter juste une petite anecdote rigolote de ma fille. Mais on voit, juste avant, j'aimerais dire que il y a une autre tendance qui est maintenant très très forte, c'est le ressenti, c'est la valeur du ressenti. Avant, on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'on ressentait, et particulièrement sur ce qu'une femme ressentait. Ça ne comptait pas beaucoup. Maintenant, ce qu'on ressent, ça prend une importance en Occident très très grande. Qu'est-ce que je ressens par rapport à mon corps? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ma réalité biologique? Est-ce que je me sens bien ou pas bien avec ça? Qu'est-ce que je ressens par rapport au rôle, ce qu'on m'oblige de vivre? Je me sens bien ou pas bien avec ça? Et on va très loin, puisque aujourd'hui, à un enfant, on lui pose la question, mais est-ce que tu es content d'être un garçon, une fille? Mais si tu n'es pas content, c'est peut-être que tu es de l'autre genre. Et en fait, tu es dans le faux corps. Voilà. Donc le ressenti, ça prend une très, très grande place. Mais pour dire à quel point, même chez les jeunes, il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à cela. Je vous raconte cette anecdote. C'est ma fille qui me téléphone toute catastrophée, puis elle me dit « Maman, maman, tu te rends compte ? Ilan, quand il va dans les parcs, il court vers les petites filles, il leur prend leurs poussettes, il met leurs poupées dedans, puis il se promène avec. » Et je demande à ma fille « Mais c'est quoi qui te pose un tel problème ?» Puis elle me répond « Mais il est en train de jouer à la maman. Pourquoi il ne joue pas comme un petit garçon avec les voitures et tout ça ?» Puis je lui pose la question « Mais pourquoi tu dis qu'il joue à la maman ? Pourquoi tu ne dis pas qu'il joue au papa ? Parce que ton mari, il promène Ilan en poussette, il reproduit. » Puis ça l'a rassurée. Mais c'est pour dire qu'on a des stéréotypes, même dans les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, dans notre génération, maintenant, il y a des jeunes qui se lèvent et qui disent « Mais ras-le-bol de toutes vos histoires. Moi, je veux être dans aucune case. Je veux être garçon, fille, en même temps, ou de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre, ou bien pas du tout, je suis dans un troisième genre. » Et se dessine quelque chose, voilà, ou encore autre chose. Et face à ça, on n'est pas tous égaux. Et je vous donne encore une autre anecdote. Il m'a été donné de voir à la télévision. C'était un père qui est hyper connu, qui est devenu une femme trans. Et il était au milieu d'autres femmes trans. Ils étaient tous ensemble avec la fille. Et le père de la fille, en tant que femme trans, demande à sa fille, à partir de quand tu t'es sentie une fille? Quand est-ce que tu as su que tu étais une fille? Puis sa fille, elle ouvre des yeux comme des soucoupes. Elle regarde son père et elle lui dit, mais je ne me suis jamais posé cette question. Et je me suis toujours sentie une fille. Et le père de lui dire, ben, tu vois, moi, je me suis toujours posé cette question. Aussi loin que vont mes souvenirs, tous les jours, je me suis posé cette question. Et autour, les femmes trans disent, oui, moi, je me pose cette question même à chaque heure. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ces questions-là. Et comment je me situe, moi, avec moi-même et avec ce qui est en train de se passer tout autour de moi? Alors, je reviens à ma grille de lecture, parce que ce que je vais faire dans ce message, c'est que dans ce que je vais vous apporter, je vais apporter mon témoignage et en même temps, je vais vous dire des textes, comment ça m'a impacté dans la Bible. L'effet que ça a eu justement dans mon rapport avec ma réalité biologique et mon genre. Puis après, je vais vous donner 4 exemples bibliques, moi, qui me touchent beaucoup. 4 personnages, voilà, qui ont un impact sur ma vie. Puis après, l'Église dont je rêve, voilà. Alors, je parlais de grille de lecture. Vous savez, on peut lire la Bible en se disant, c'est un livre mythologique ou c'est un livre qui nous donne beaucoup de repères historiques, géographiques ou comme ça. Mais voilà, sans plus. On peut le lire comme un espèce de roman. Ou bien on peut avoir une pensée d'examiner toute chose puis de dire, mais ça, c'était valable à une époque. Aujourd'hui, c'est plus valable. Et puis on trie. Voilà. Pour ma part, et ça c'est mon choix et c'est mon parti pris, c'est de dire mais ça pour moi c'est vraiment la parole de Dieu. Et puis que ce que j'ai entre mes mains aujourd'hui, ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui se révèle dans cette Bible, c'est la parole qu'il voulait que je connaisse, que à l'heure où on peut quasi tous avoir accès maintenant grâce à Internet à cette parole-là. Donc, pour moi, c'est des textes qui sont sacrés, donc je ne vais rien enlever. Mais en même temps, je reconnais que je suis en difficulté avec certains textes, et puis on parlait de ça avec notre théologien Richard tout à l'heure, et puis j'ai besoin d'en discuter avec Dieu. Mais il y a un côté en moi quand même qui s'incline et puis qui ne va pas plus loin. Alors, je vais vous... Et j'ai besoin de faire quelque chose là, tout de suite. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est quand je commence à lire la Bible, les deux premiers mots, trois premiers mots, c'est « Au commencement, Dieu ». Avant d'aller plus loin, je m'arrête avec ça et tout d'un coup je me dis « Avant que j'existe, que le monde existe, qu'il y ait tout ce brouhaha qu'il y a dans notre monde, il y a toi ». Peut-être avec d'autres créatures autour de lui. Et puis j'ai besoin de rester en silence là-devant et d'être d'accord, de dire, ben, toi, tu étais avant toute chose, tu es Dieu, tu sais exactement ce que tu fais, ce que tu veux. Tu as choisi de créer, tu l'as fait comme tu l'as fait et de te révéler dans cette parole. Et moi, j'ai envie de m'arrêter et juste dire, mais existe, sois pleinement dans ma vie, autour, existe, soit Dieu. Voilà, ça pour moi, c'est une partie très importante dans ma vie. Puis je reste en silence devant Dieu, puis je le laisse faire avant d'aller plus loin. Voilà. Ça c'est mon premier point que j'aimerais poser. J'ai besoin de m'arrêter de reculer et puis de laisser Dieu s'avancer puis régner dans ma vie. Et puis, par rapport à ces questions de création, alors je vais juste lire quand Dieu crée et qui crée l'être humain, puis j'aimerais le lire dans Genèse 1. À partir du verset 25, et je le lis dans la version Chouraki. Elohim fait le vivant de la terre pour son espèce, la bête pour son espèce, et tout reptile de la glèbe de la terre pour son espèce. Et Dieu dit, quel bien! Et comme c'est écrit, il y a un point d'exclamation, c'est Dieu qui regarde ce qu'il a fait, puis trouve ça tellement bien. Et puis, plus loin, Elohim crée l'homme à sa réplique, à sa ressemblance ou à son image. Il le crée, et c'est rajouté, mâle et femelle, il les crée. Et quelques versets plus loin, Elohim voit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Cette fois-ci, il dit un bien immense. Et moi, je me suis posé la question, et pour moi, d'avoir été créée femme, d'avoir été créée fille, est-ce que c'est un bien immense? Eh bien, ça ne l'a pas toujours été du tout dans ma vie, et je dois le reconnaître. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir tout vous raconter maintenant, mais depuis petite, j'ai eu déjà des difficultés avec mon sexe biologique parce que je me sentais moins fille que les autres filles. Si je regardais ma sœur ou ma mère, je les sentais plus filles. Et à l'adolescence, je sentais les autres adolescentes plus femmes devenir que moi. Ça, c'était mon ressenti. Donc, j'étais vraiment en difficulté avec mon corps. Et après, j'ai trouvé les règles tellement douloureuses et puis les accouchements tellement difficiles et tout ce qui allait avec, que franchement, il y avait quelque chose en moi qui était en difficulté avec ma réalité biologique. Et puis avec mon genre aussi, parce que je suis très sensible à l'injustice. Et je trouvais qu'il y avait tellement de choses injustes du fait que j'étais une fille, mais aussi en entendant ce que d'autres femmes avaient vécu ou vivaient. Et je me disais, mais c'est parce qu'elles sont des femmes que ça leur arrive. Sans compter les abus, il y a eu des abus que j'ai vécus en tant que fille. Et si j'avais été un garçon, je n'aurais pas vécu ça. Donc j'étais vraiment en guerre avec ça. Et une nuit, j'étais maman d'un petit garçon qui était en train de faire ses dents. Et ça a été horrible pour moi parce qu'il pleurait. Et puis je priais Dieu pour que ça s'arrête parce que j'étais tellement épuisée. J'avais besoin de dormir. Et lui, il pleurait, il avait mal, je ne savais pas comment le soulager. Et au bout de plusieurs nuits comme ça, j'ai dit à Dieu, mais de toute façon, toi, tu ne peux pas me comprendre. Parce que toi, tu es un Dieu Père. Jésus, tu ne peux pas me comprendre. Toi, tu es le Fils. Et même le Saint-Esprit, c'est au masculin. Et je me rappelle très bien avoir dit ça à Dieu. Et de dire, mais je me sentais tellement seule et je dis, mais nous, les femmes, on est confrontées à tellement de choses difficiles que les hommes y sont épargnés. À l'époque, je voyais les choses comme ça. Le culte suivant, on a eu un message très intéressant d'un pasteur qui a parlé des frères et sœurs de Jésus et qui a parlé traditionnellement, la tradition dit que les frères de Jésus sont morts martyrs. Et il a posé la question. Quel fils Jésus a été dans sa famille, quel frère il a été pour que des membres de sa famille ont été jusqu'à la mort pour être fidèles à Dieu. Qu'est-ce qu'il a été dans sa famille? Et pour moi, cette question, ça a été une révélation de me dire, mais Jésus, est-ce qu'il était indifférent à toutes ces choses qui me touchent moi en tant que femme? Est-ce qu'il a laissé sa mère se débattre toute seule et ses frères et sœurs se débattre tout seuls avec leur réalité? Sur le terrain de la famille, il a dû être quelqu'un de tout simplement exceptionnel. Et ça m'a tellement touchée, tout d'un coup, je me suis dit, je vais relire les évangiles et je vais le lire en regardant comment Jésus était avec les femmes. Et je me suis dit, mais être une femme en face de Jésus, ça a dû être chaque fois une rencontre exceptionnelle. Et elles le disent. Et elles ont un attachement à lui qui est particulier et qui va même au-delà, par exemple, de sa mort sur la croix, puisqu'elles, elles sont restées. Et puis tout de suite après, il y a quelque chose dans Jésus qui rejoignait les femmes et qui a commencé à me rejoindre moi. Et ça m'a aidée vraiment dans ma réconciliation. Alors, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ce thème-là, mais j'aurais été tellement heureuse à cette époque d'entendre ce genre de témoignage. Ça m'aurait beaucoup aidée. Et je pense que beaucoup de femmes qui ont été très révoltées de leurs conditions auraient pu être aidées si on avait osé parler de ces choses-là. Dans cette partie où Dieu dit que c'est un bien immense, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour Dieu, ce n'est pas du tout banal qu'on soit des garçons ou des filles. Et tout à l'heure, on disait, non pas à nous, mais à toi, rends gloire. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé que pour Dieu, c'était quelque chose de vraiment génial, entre autres parce qu'il dit qu'on reflète quelque chose de lui. Et à un moment donné, moi, j'ai dû accepter ça. Je ne sais pas si vous, vous réalisez que dans vos êtres, hommes ou femmes, on reflète dans cette réalité quelque chose de lui. Et quand on est les deux ensemble, un homme et une femme l'un à côté de l'autre, ça donne une image très complète d'une facette de Dieu qui, pour lui, elle est importante. Sinon, elle n'aurait jamais dit c'est un bien immense. Et en cela, j'effleure juste ça, mais c'est quelque chose dont on parle très peu dans les églises puis qu'on bénit peu, mais on devrait peut-être le faire beaucoup plus pour s'accompagner les uns les autres dans la joie d'être des hommes et des femmes. Moi, il y a un moment donné où j'ai dû accepter d'être qui je suis puis de n'être que cela. Mais il y a une autre chose, moi, qui ne m'a pas aidée. C'est le côté caricatural de se dire on n'est qu'un homme ou qu'une femme. Alors oui, on est limité dans nos êtres biologiques, ou bien aujourd'hui, avec un apport extérieur, on peut devenir plus que cela. Hein, on sait hormonalement, on peut faire des opérations, on peut influer sur ces choses-là. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose qui vibre de me dire si je veux être pleinement une femme, il y a quelque chose de l'ordre du masculin qui doit aussi exister dans ma vie, dans mon cœur. Si je suis qu'une femme et que je mets de côté des caractéristiques masculines, pour moi, je crois que c'est peut-être ça qui m'a posé le plus de difficultés. C'est quand on m'a dit, par exemple, une fille, elle ne fait pas comme ça. Un garçon ne se tient pas comme ça. Ou tu es un garçon manqué. Ou tu devrais faire autrement parce que tu es une fille. Puis en fait, ce que je manifestais, c'était pleinement moi. Et c'est très dommage de m'avoir essayé de me réduire, de me mettre dans les cases. Et je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui, il y ait tant de jeunes qui veulent sortir des cases toutes faites qu'on avait du passé. Et en cela, alors on peut le voir dans nos traces hormonales. On a deux sortes d'hormones. On a toutes sortes de qualités qui sont dans les deux genres, dans la même personne. Et quand j'ai demandé, on était dans un groupe de jeunes, puis on demandait à les jeunes, mais c'est quoi qui est typiquement masculin? C'est quoi qui est typiquement féminin? Les jeunes avaient beaucoup de peine à le dire, parce qu'ils disaient non, mais les filles aussi. Puis quand ils donnaient une caractéristique, tout à coup les filles disaient, moi aussi je me sens ça. On a eu beaucoup de peine à faire de l'ordre là au milieu. Et ça, il y a des personnages dans la Bible qui, déjà, il y a 2000-2500 ans, ils n'étaient pas d'accord d'être dans des cases. L'Esprit de Dieu, quelque part, faisait vibrer en eux tout ce qu'ils avaient de masculin et de féminin. C'était clairement des hommes et des femmes, mais ils assumaient pleinement une partie d'eux-mêmes qui existaient en eux. Et je vais vous donner quelques exemples qui, moi, me touchent beaucoup. On prend, par exemple, Joseph. Il a été le pharaon numéro 2. À son époque, il a été l'homme le plus important. Et puis, de toute cette région, il a aidé une multitude de peuples à ne pas mourir de faim. Il arrivait à organiser, il était déterminé. C'était un homme bon et vrai. Et très, très fort mentalement, il a pu résister à toutes sortes de pressions dans sa vie. Mais il n'était pas endurci. Et quand il a revu sa famille, ça l'a tellement touché qu'il a dû les quitter pour aller dans la pièce voisine et pouvoir pleurer et crier toutes les émotions qu'il avait dans son cœur. Ça sort du code quand on dit à un garçon « mais tu ne devrais pas pleurer ». Ben voilà un exemple d'un homme selon Dieu et qui avait un cœur, une tendresse, malgré tout ce qu'il avait souffert, ça ne l'a pas endurci. Un autre exemple pour moi, c'est David. Parce que David, ça a été un des plus grands rois d'Israël. Il a régné d'une main de fer. Il a été un guerrier, mais vraiment exceptionnel. Il a réussi à faire tant et tant de choses, voilà, qui étaient en lien direct aussi avec son être homme. Et en même temps, pour lui de danser devant de joie, devant Dieu de joie, avoir cette sensibilité de jouer de la musique, d'avoir tremblé de peur devant Dieu, d'être vrai émotionnellement, eh ben, ça fait partie de la beauté des psaumes, du charme de David. Et ça ne lui posait aucun problème d'être comme ça. Et je vais vous citer deux exemples de femmes, moi, qui me touchent énormément. Ben, d'un côté, par exemple, Déborah, qui était une femme d'autorité, de justice, qui va encourager à la guerre et à lever une armée, puis qui va oser s'affronter à quelqu'un, mais qui massacrait les Israélites déjà depuis la génération d'avant. Donc, elle a été courageuse. Et en même temps, quand les rabbins, par exemple, lisent le psaume qu'elle écrit, ils disent, mais il y a un côté en elle qui est tellement sensible. Et à la fin du psaume, du chant de louange qu'elle écrit, elle parle de la mère de son ennemi. Et elle imagine cette maman de son ennemi qui s'est fait tuer, de sa réaction, de son cœur, de son attente. Et voilà de nouveau une femme qui, d'un côté, elle était une guerrière, et de l'autre côté, il y avait ce cœur de mère, comme elle disait, qui était pleinement là. Elle n'était pas endurcie. Et puis, l'histoire de Yaël, c'est aussi quelqu'un qui me touche énormément, qui est dans sa tente et qui va justement recevoir ce fameux ennemi, ce général Sisera, qui avait terrorisé toute la région pendant des dizaines d'années, et qui arrive chez elle, complètement épuisée après la guerre. Et puis, elle va le recevoir d'une façon toute naturelle et féminine. Elle va lui donner à boire du lait, elle va lui proposer de se reposer, elle va, quelque part, elle va lui faire perdre, toutes ses armes, toute sa force, toute son agressivité. Et puis, elle va faire ce qu'elle a toujours fait, ce que les femmes faisaient de son époque. C'est les femmes qui construisaient les temples, les tentes, et qui plantaient les tentes. Et elles avaient l'habitude elles-mêmes de planter les épieux dans la terre, qui souvent était très dure, très sèche. Et elle a fait un geste qu'elle a fait tous les jours, mais cette fois-ci, elle l'a fait dans la tempe de l'ennemi d'Israël. Et elle a tué l'ennemi d'Israël d'un geste. Et elle aussi, elle avait d'un côté quelque chose de très féminin, hospitalier, nourricier, accueillant, mais d'un autre côté, elle savait qu'à ce moment-là, elle devait faire ce geste pour sauver tout un peuple de quelqu'un qui était cruellement fort et puissant et meurtrier. Et elle l'a fait. Donc on voit que si d'un côté, moi, il y a un moment donné où j'ai dû accepter qui je suis, m'incliner devant ma réalité, pardonner ceux qui m'ont fait du mal, qui m'ont touché dans ma construction, et demander pardon là où je me suis révoltée, où je me suis battue contre moi-même, ben, d'un autre côté, il y a, après, ça a été beaucoup plus simple pour moi de développer ces côtés plus masculins, féminins en moi. Il y a une danse, une réconciliation intérieure. Et pour moi, Jésus à la croix, il a aussi porté cette guerre intérieure qu'on peut avoir entre ce qui est fort, ce qui est faible en nous, ce qui est déterminé, ce qui est vulnérable, ce qui est ouvert et ce qui doit être absolument fermé. Il y a des choses très spéciales en nous qui, devant la croix, après, peuvent grandir et s'émerveiller devant Dieu. Et puis, maintenant, j'aimerais parler de ce dont je rêve pour l'Église. L'Église qui me ferait du bien, qui me fait du bien. En ce moment, ben, vous remarquez, j'ai juste effleuré un petit peu la question et puis vous dire à quel point, si j'ai pu sensibiliser dans le fait que dans la Bible, il y a plein de textes qui touchent notre identité, qui touchent notre sexualité, qui touchent notre genre, qui touchent nos relations. Et que ça vaut la peine qu'on relise la Bible sous ces éclairages-là. Je me rends compte qu'on est dans un monde où les choses évoluent très, très vite. Hein. Et puis, on doit vivre avec. Et vivre avec des réalités auxquelles on n'était pas confronté avant. Et souvent, ben, on ne sait pas comment faire. Je pense à, par exemple, mon fils, ma petite-fille qui sont là, à ma fille, cette génération-là de jeunes, à leur travail, parmi leurs amis, les gens qui côtoient dans les médias, ils sont confrontés à toutes sortes de choses, de questions eh ben, qu'on ne connaissait pas, nous, de notre génération. Et l'Église, pour moi, devrait être, on devrait créer dans l'Église, justement, des lieux comme ça, protégé, dans le sens qu'on ne va pas se juger, qu'on ne va pas se critiquer, qu'on va donner le droit à la parole à chacun, mais un lieu où on va pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Moi, je rêverais, par exemple, qu'on crée des groupes, un peu comme des cellules, où régulièrement on se retrouve. Et où on peut prendre un thème, on peut prendre une situation, par exemple, quelqu'un vient, puis il dit, ben voilà, dans mon groupe, par exemple, dans la boîte dans laquelle je travaille, on a engagé une personne trans, et moi, je ne sais pas comment être avec elle. Eh bien, on vient avec cette situation-là, puis on commence à en parler. Puis on dit ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous anime ? Quelles sont nos peurs? Est-ce qu'on arrive vraiment à aimer l'autre? Puis qu'est-ce qui nous pose un problème? Jusqu'où on arrive à arriver dans cette situation-là? Puis on s'échange comme ça. Puis on se dit les choses. Puis il y a peut-être des gens qui sont déjà plus en avant, qui se sont déjà posé ces questions, qui ont déjà été dans ces situations-là. Et puis d'autres, pas du tout. Puis on commence à en parler, mais on ne se juge pas. On est vrai, on ose dire ce qu'on a au fond de nos cœurs, les défis auxquels on est confronté. Les gens vont jusqu'au bout de ce qu'ils osent dire. Et peut-être qu'il y a plein de choses où on dira, ben, on ne sait pas. En ce moment, on ne sait pas encore. Puis on commence à prier, puis on invite Dieu au cœur de ces sujets. Et puis tout d'un coup, on se rend compte ben, qu'on a bougé, et puis que Dieu est là, puis qu'il agit, parce que lui, il n'est pas du tout indifférent à notre monde, puis à ce qui est en train de se passer. Mais je me rends compte aussi dans ce besoin d'authenticité, de vérité, par exemple, de dire, mais moi, j'ai telle ou telle difficulté. Ben, on a des ennemis dans l'Église. Ben, c'est déjà des peurs. On a des peurs, voilà, toutes sortes de peurs qu'on aurait besoin de confronter. Et puis, on a des fardeaux qui sont sur nous. Par exemple, on est sûr que quand on entend quelque chose, la première chose à faire, c'est de dénoncer. De dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais on ne connaît peut-être même pas la personne qui est en train de s'exprimer. On n'est peut-être même pas en lien avec elle. On n'a peut-être même pas créé quelque chose qui pourrait nous attacher les uns aux autres. Que déjà, on se différencie, on recule, puis on est séparés. Et puis l'amour ne circule pas. Par exemple, on a ce fardeau-là. Il vient d'où ? Faudrait en parler. Ne rien dire, ça ne va pas non plus, parce qu'on a besoin d'exister. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Moi, je suis en train de vous sensibiliser pour dire, mais on aurait tellement besoin de ça, tellement besoin de se parler. Jésus nous dit, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et on voit que les disciples, ils avaient une grande liberté d'exprimer les choses. Du reste, Jésus dit, vous parliez de quoi là ? Et puis, ça intéresse Jésus. Puis après, lui, il s'exprime aussi. Des fois, ça l'énervait même. Il dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter ? C'est vrai. Mais il y avait cette liberté de parole. Parce que si on veut s'aimer les uns les autres, ben, faut déjà se connaître. Mais comment on va se connaître si on ne se parle pas ? Si on a des rôles, des masques, on veut justifier notre existence, puis on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de se dire. Et comment on va faire avec les gens du monde après ? Les gens qui ne pensent pas comme nous, qui sont différents, puis qui ont aussi besoin d'être connus dans leur réalité. Puis qu'on s'intéresse vraiment à eux. Comment on va faire ? Et c'est vrai pour moi, ça c'est hyper important. Qu'on le vive à l'interne de l'Église, puis qu'on n'ait pas peur. Et puis on a d'autres choses qui sont typiquement chrétiennes, et pourtant Jésus, combien de fois il en parlait, c'est de ne pas juger, de ne pas essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre prochain, alors que nous, on a une poutre, ce qui équivaut à dire qu'on ne voit rien. On a ce fardeau de devoir toujours juger. Ça ne veut pas dire que je dis tout ça, et pour moi, c'est hyper important, qu'on va perdre ce que Dieu aime. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec « Au commencement, Dieu ». Et qu'on a besoin qu'il règne en nous, qu'on a besoin, comme ça, de serrer la parole sur nos cœurs et de dire, moi, je ne veux rien enlever, mais une fois que j'enlève rien, eh ben, il y a aussi dedans toutes sortes de clés pour nous aider à vivre dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas apporté des réponses toutes faites, hein. Je suis venue avec beaucoup, beaucoup de questions, mais est-ce qu'on serait d'accord que Dieu vienne déjà régner là au milieu de ces questions et de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que lui, il a des choses qu'il aimerait nous communiquer, nous faire aller plus loin. Et puis, sur la croix, tout est accompli pour racheter tout ça. Alors, j'aimerais prier. Je vais prier le Notre Père adapté à ce sujet. Je suis très consciente que dans le temps qui m'a été donné, j'ai pu juste effleurer et que c'est complètement incomplet, vraiment. Mais si j'ai suscité un petit peu de curiosité, de discussion, de besoin de revenir là-dessus et de prier, ben, j'aurais déjà réussi à faire quelque chose de, voilà, d'ouvrir quelques portes. Notre Père qui es aux cieux, toi tu es dans le ciel, nous on est sur cette terre et il y a un brouhaha de tant de choses et nous on a besoin que tu fasses de l'ordre dans nos vies. Que ton nom Jésus, qui dit que tu sauves, que Dieu sauve, vienne nous sauver dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour ces questions grises, pour ces questions de genre, pour tout ce qui est en train de se passer autour. Tu n'es pas venu pour condamner ou juger, tu es venu pour sauver dans notre monde. Sauve. Que ton règne vienne. Seigneur, pour toi que tu as créé, tout était clair, net. Et une grande partie de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui vient qu'on s'est défait de toi, qu'on ne t'a pas laissé régner. Puis maintenant, on est tout embrouillé et on a besoin que ton règne vienne et que ta volonté, ce que tu as prévu dans le ciel, tu puisses l'accomplir dans nos propres vies déjà, dans ce qu'on ressent, dans notre rapport avec ces questions, mais aussi dans notre prochain, dans ce que lui, il est en train de vivre. Dans notre monde, dans la place de l'Église, dans notre monde, à l'intérieur de l'Église, que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Et donne-nous notre pain de ce jour. Nourris-nous de toi, de ta parole, de tout ce dont on a besoin pour justement avoir des histoires à raconter, des témoignages, Seigneur, qui nous font exister, qui nous rendent libres. Qu'on ose dire aussi devant le monde, bah moi, je suis comme ça, puis ça me fait du bien d'être comme ça, en harmonie avec Dieu, avec sa parole. J'essaie, j'y tombe, j'y arrive pas. Des fois, je m'en éloigne. Mais merci, Seigneur, parce que tu m'y ramènes. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous parce qu'on est contaminés, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on a des chutes dans nos vies, parce qu'on a des peurs. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous, on veut pardonner aussi ceux qui ne nous font pas du bien, qui ne nous supportent pas, qui ne nous permettent pas de faire un chemin, nous donner le temps d'apprendre et de pouvoir répondre à ces questions-là. Pardonne-nous comme nous, on pardonne aussi. Seigneur, protège-nous d'entrer dans la tentation, dans l'épreuve, dans ce qui pourrait nous éloigner de ce que toi tu aimes. Parce que c'est à toi qu'on vient, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et particulièrement pour toutes ces questions où on a besoin d'avancer ensemble. Bénis notre Église pour qu'il y ait des lieux où on puisse avancer ensemble, sortir de la confusion et avancer en posant notre pied sur des lieux sûrs où on est encouragé par toi et où on peut aimer notre prochain de tout notre cœur et où il se sait aimer par toi. Amen.